Où étiez-vous il y a 10 ans? Que faisiez-vous? Est-ce que la techno faisait déjà partie de votre vie? Et je ne parle pas juste des courriels et de la consultation de sites web, mais de la technologie en général et de ses possibilités, ses capacités. Je repensais justement en ce début d'année, où est-ce que j'étais il y a 10 ans? Qu'est-ce que je faisais avec la technologie? Puis déjà à l'époque, je consommais des blogs. J'utilisais déjà aussi un lecteur RSS. J'étais fasciné par cette technologie-là. Au bureau, toute ma musique était déjà sur iTunes. Il faut dire que avant son rachat par Apple pour le transformer en iTunes, j'utilisais déjà SoundJam MP. Peut-être que ça allumera des lumières à certains d'entre vous. Et je l'utilisais déjà depuis 2 ans environ, depuis 1999. Je tripais déjà sur l'audio, sur cette forme de communication-là, et même que je m'étais acheté une interface audio à l'époque, puis on parle de quoi? 4 ans avant la naissance du podcasting? À cette époque-là, ben, la première grande bulle du web avait déjà éclaté, pour ceux qui sont sur le web depuis assez longtemps pour s'en souvenir. J'avais déjà fait quelques sites web, comme on dit, derrière la cravate. Et je tripais sur la technologie. Je travaillais pour l'agence Cossette, pour la division branding. Et avant que j'arrive au bureau, bien, il y avait un comité dans notre division pour l'évolution technologique. Et ensuite, bien, c'est moi qui faisais le travail tout seul. J'étais le comité moi-même et je soumettais mes recommandations aux dirigeants pour les décisions technologiques. Et aussi, on m'envoyait faire des formations. Je suis même allé cette année-là faire un séminaire sur le branding web en Californie en 2001. Et par la suite, je me suis fait prendre par le tourbillon du web, par le tourbillon des technologies, les médias sociaux par la suite. Et je suis assez content de voir le chemin qui a été parcouru. Et je ne parle pas nécessairement de moi. Je parle des technologies en tant que telles, le seuil de maturité. Peut-être que dans quelques années, on dira que les médias étaient sur le web dans leur seuil d'adolescence. Mais pour moi, je trouve qu'il y a un seuil de maturité parce qu'il y a vraiment une utilité très pratique dans nos vies et c'est rendu très accessible et très utile aussi. Je regarde ça, puis moi aussi, je suis content de l'évolution que j'ai eue. Où est-ce que je suis rendu? Et comment j'ai appris à me servir de tout ça et à intégrer ça autant dans mon travail que dans ma vie personnelle. Et vous, est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous avez progressé? Êtes-vous devenu celui que vous vouliez être? Et sinon, ben quel est votre plan pour arriver à vos fins? Mon nom est Sylvain Grandmaison et vous écoutez le 62e Québec en balado-diffusion. We left behind the busy crowd. Ce que vous venez d'entendre, ben c'est Ten de Jimmy Eat World. Et c'est tiré de son album Clarity. Ten, pourquoi 10? Parce que c'est les 10 ans de Wikipédia. Et c'est un peu... Mais c'est pas juste ça qui a amorcé ma réflexion, en fait. Je pensais à ça juste après Noël. Qu'est-ce que je faisais? Où est-ce que j'étais? Il y a 10 ans, quel est le chemin que j'ai parcouru et où est-ce que je veux me trouver aussi dans 10 ans? Et aussi, comme par hasard, c'est les 10 ans de Wikipédia. Et c'est drôle parce que je me rappelle très clairement d'avoir utilisé Wikipédia il y a 10 ans. Donc c'est ça, c'est pourquoi je vous fais jouer des chansons qui s'intitulent 10, 10. Et il y en a plusieurs, il y en a quelques-unes. Et c'est ça, c'est le début, c'est l'idée derrière, l'idée de faire jouer ces chansons-là qui s'appellent 10, mais il y en a 5. Donc, voilà. je pense qu'il y avait aussi une chanson de Jewel, quand j'ai fait ma recherche, une chanson de Jewel qui s'appelle 10, mais je vous ferai pas jouer ça, n'ayez pas peur. De toute façon, c'est contre ma religion, moi je fais pas jouer ce genre d'affaires-là. Bon. Oui, il y a 10 ans, j'utilisais un truc qui s'appelait Wikipédia et c'est drôle parce que quand j'en parlais autour de moi, il n'y a personne qui connaissait ça. C'était assez hallucinant. Je ne sais pas comment j'ai connu ça. Peut-être que ça s'est relayé par courriel parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de médias sociaux, évidemment, ou très peu. Il y avait des blogs, il y avait des forums de discussion. Il y avait différents petits trucs comme ça, mais des plateformes pour relayer instantanément l'information, il n'y en avait pas. Puis sûrement que j'avais appris par courriel ou sûrement peut-être dans Wired, je ne me rappelle pas. Bref, et j'utilisais ça, surtout pour faire de la recherche quand on travaille sur des projets de branding, quand on amorce la recherche pour aller chercher de l'information sur un client, sur un sujet en particulier. C'est toujours intéressant, puis c'est un peu toujours de la même façon que je m'en sers plutôt pour faire de la recherche. C'est, je vais là, ça me donne une idée, des pistes, puis à partir de là, je peux aller chercher, creuser, fouiller, et voilà. Comment vous servez-vous de Wikipédia? J'aimerais bien le savoir. Donc, qu'est-ce qu'on va parler à l'émission cette semaine? On va parler de mon podcast qui redémarre un petit peu plus. Dernièrement, je vais vous parler de Quora ou de Quora, plutôt. Je vais vous parler de Google Places, mais pas beaucoup, en fait. Juste un petit peu. Je vais vous parler de technologie, de télé, de façon de visionner du contenu vidéo sur sa télé, tout ça. Peut-être un peu du App Store de Apple qui a été lancé l'autre semaine. Ensuite de ça, il va y avoir, oui, l'entrevue avec Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, que j'ai fait cette année. Donc, ça donne bien, hein, ça fait 10 ans. Puis, j'ai une entrevue que j'ai jamais diffusée encore qui demande qu'à sortir, aller rejoindre vos oreilles. Donc, c'est de tout ça qu'on va parler à cette émission-ci. Je ne vais pas vous casser les oreilles avec mon podcast et tout ça, mais sauf que, en le redémarrant, en le publiant, le dernier épisode, évidemment, j'ai vu mes statistiques, chose que je ne vais plus jamais voir maintenant, parce que ça pas que ça ne m'intéresse pas, mais je veux dire, c'est pas mon élément motivateur premier. Sauf que j'ai été quand même très surpris de voir qu'il y avait plus de 3000 téléchargements par mois. Tout épisode confondu, on s'entend, là, 60 quelques épisodes, mais quand même plus de 3000 par mois sans même produire un seul nouvel épisode. Donc, ça me surprend beaucoup, premièrement. Évidemment, les épisodes les plus récents sont souvent les plus téléchargés. On parle de plus de 300 fois par mois pour des épisodes qui datent quand même de quelques mois. Au total, il y a plus de 120 000 téléchargements de tous mes podcasts. C'est énorme. Quand j'y pense, 120 000 fois que les gens ont écouté ma douce et tendre voix. Je vous parle de mon podcast en général aussi parce que ça arrive de temps en temps. Ça, je ne suis pas sûr, je vous l'ai déjà mentionné, que des gens me demandent les droits pour utiliser mon podcast dans un cadre, par exemple, d'enseignement. Donc, ça arrive, je ne dirais pas à toutes les semaines, mais quand même, quelques fois par année, on me signifie soit qu'on l'a déjà utilisé, soit qu'on le mentionne, etc., etc. Donc, année jusqu'à date, si ma mémoire est bonne, mon podcast est utilisé en Espagne, en France, en Belgique, en Allemagne, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, aussi en Suisse, c'est vrai. Et c'est utilisé, entre autres, pour étudier la langue française, la langue québécoise, mais aussi pour enseigner la production audio et la production de contenu de type radiophonique. Et ça, ça me fait toujours rire parce que, bon, je suis pas nécessairement un professionnel de la radio. Mais c'est sûr que, bon, après avoir été faire des chroniques à Radio-Canada, je peux plus vraiment dire ça, mais quand même, c'est pas ma formation première. Je suis pas un réalisateur radio ni un animateur radio proprement dit. Sauf que savoir que son travail est quand même reconnu et étudié ailleurs, ben c'est drôle. Et ça va être utilisé comme outil de formation pour les étudiants en création radiophonique du lycée Charles de Gaulle à Dijon. Ça, c'est le tout dernier. Je trouve ça quand même intéressant de voir comment ça évolue, comment il y a du rayonnement pour mon podcast malgré tout. Donc, j'en profite pour vous remercier à tout le monde. C'est vraiment très gentil. Donc, Quora, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? J'ai fait une blague sur Twitter, bon, ce qui n'est pas vraiment la réalité, là. Mais c'est drôle parce que Quora, tout le monde a eu des invitations un peu comme dans le temps de Noël, un peu avant, un peu après. C'est drôle, c'est comme si tout le monde était en vacances puis tout d'un coup se cherchait un nouveau, the new shiny toy, le nouveau jouet technologique à avoir. Et j'ai dit que c'est comme le joujou reçu à Noël qui va passer les 50 semaines suivantes dans sa boîte. Ce qui n'est pas vraiment la réalité. C'est sûr qu'il y a un engouement parce que, bon, c'est une relativement nouvelle plateforme. Mais aussi, bon, il y a un engouement parce que, bon, c'est une forme de partage intéressante qui n'est pas nécessairement sans rappeler certains autres trucs comme par exemple Google Wave comme type d'interaction entre les gens, mais en mieux fait, en plus intelligent. Donc c'est ça, c'est assez intéressant. La façon que ça fonctionne, c'est que on arrive là et on pose une question auxquelles les gens répondent. Donc on peut soi-même répondre à des questions ou en poser et se faire répondre. Et vous allez dire, bon, si on connaît personne et personne ne nous suit, comment ces gens-là peuvent répondre aux questions? Mais on pose une question sur un sujet précis. Donc, tout le monde qui suit un sujet en particulier peut y répondre et peut participer. Et ça, c'est vraiment très dynamique. C'est très intéressant parce qu'il y a plein de réponses à toutes sortes de choses. Bon, ça peut être très, très simple, très pas juste technologique. On peut poser toutes sortes de questions. Mais j'ai trouvé ça aussi intéressant, comme par exemple, moi je fais des projets de médias sociaux, on travaille aussi à monitorer la performance dans les médias sociaux. L'outil le plus reconnu, mais très coûteux quand même, qui est Radian 6, des gens cherchent parfois des alternatives en fonction de leurs besoins, parce que bon, évidemment, la licence et les droits d'utilisation coûtent cher et bon, etc. Je vous épargne les détails. Mais c'est ça, quelqu'un cherchait une alternative et c'est le fun, les suggestions qui ont été proposées, dont une suggestion que je ne connaissais pas du tout sur la pile et qui s'avère vraiment intéressante, que je veux creuser un petit peu plus. Donc, c'est très utile pour ça. Le truc pourquoi je le trouve intéressant personnellement, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup nécessairement de gens, de marketeurs, on pourrait dire, de brand managers qui essayent de pousser leur outil, leur marque, leur truc. Donc, ça, c'est intéressant. On sent une vraie conversation authentique entre des êtres humains. Pas que les brand managers ne sont pas des êtres humains, mais disons qu'ils ont des intérêts. Et là, d'avoir une conversation qui est complètement libre, sans qu'il y ait un intérêt particulier de vouloir faire de l'argent ou de vendre un produit, ça fait du bien, c'est frais, ça me rappelle les débuts de Twitter, ça me rappelle les débuts du podcasting, tout ça, avant que les marketeurs se mettent à envahir les médias sociaux. Donc, d'un côté, je vois qu'il y a une opportunité pour les marketeurs, d'un autre côté, je trouve que ça fait du bien de ne pas les avoir dans les pattes. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, c'est ça, Quora, un bon outil de crowdsourcing. C'est vraiment le crowdsourcing à la puissance 10 dans les médias sociaux. Faut que vous y alliez. Il y a aussi des invitations pour Google Places qui m'ont été envoyées, bon, et son engin. Google tire dans toutes les directions en ce moment. Ils lancent des produits, un après l'autre, sans vraiment que les uns soient parfaitement intégrés avec les autres. Et le gros problème de Google en ce moment, je vous le dis, c'est un, oui, ils lancent trop de choses. Deux, mal intégrés les uns avec les autres. Mais sa grande faiblesse, Google a toujours tablé sur le fait que ces choses étaient simples, étaient épurées. Okay? Donc, vous allez arriver sur Google, l'engin de recherche en lui-même. Oui, c'est simple, il n'y a rien autour. Sauf que quand on entre dans les outils en tant que tels, la navigation n'est pas intuitive. Ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile à comprendre. Non, c'est simple parce qu'il y a peu d'informations. Mais si c'est mal fait et ce n'est pas intuitif, bien, ça ne fonctionnera pas bien. Et à ce niveau-là, bien, Google a des sérieux problèmes d'ergonomie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Autant au niveau ergonomique qu'au niveau design, tout est laid. C'est vraiment laid chez Google. On se croirait chez Microsoft dans les années 90. C'est laid, mais bon, en plus simple que Microsoft. Microsoft, c'était comme la pizza all dress un peu partout dans les années 90. Donc, c'est simple, mais c'est laid pareil. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donc, Google Places, c'est gossant un peu. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu du crowdsourcing pour des endroits, des restos. En fait, ils voudraient que les gens participent autant que sur Foursquare pour ajouter de l'information, ajouter des lieux et les géotaguer. Donc, mettre des informations. Bon, ce resto-là est à tel endroit, c'est bon, c'est pas bon, etc., etc. Donc, ils essayent de tirer partie de cet engouement-là pour tout ce qui est géolocalisation, mais ça fonctionne pas bien. Et c'est ça le problème de Google, c'est qu'il y a trop de bidules, on est trop sollicité par eux autres et on en a trop rien à foutre parfois. Avant de continuer, ben, je vais vous faire jouer une chanson. Vous aurez deviné le titre. C'est Ten, d'un artiste qui s'appelle Mox Bull. Cette chanson-là ne se trouve pas sur un des albums de lui qui est disponible sur iTunes, mais se trouve sur un album qui est un peu un collectif, si on veut, qui s'appelle The Synchronicity Suite. Ça m'a amené à m'intéresser à cet artiste-là qui fait de la musique électronique, qui a un assez bon mood. J'aime bien ce qu'il fait, même que, bon, il y a un autre album que j'ai spoté et que j'ai envie de télécharger. Mais c'est un gars qui a des titres d'albums assez sympathiques. Oui, genre 9000 Death ou un autre qui s'appelle, je crois que c'est Skull Taste. Donc, je me demande s'il a vraiment goûté pour savoir qu'est-ce que ça goûte, parce que pour dire que ça goûte comme un crâne, ben, hein? Écoutez ça. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais aussi technologique que je puisse l'être, je n'avais pas de télé HD à la maison. Mais premièrement, parce que notre ancien appartement, mais il n'y avait pas la place pour ça. Et tant qu'à avoir une télé HD de 23 pouces, aussi bien en avoir une vraie, une grande. Et aussi, bien, vu qu'on allait déménager, ben c'était pas nécessairement le moment, tout ça. Donc, on a attendu, on fonctionnait avec une télé à écran cathodique d'environ quoi, 21 pouces, je crois, une vingtaine de pouces. Et là, on a fait le saut. Donc, on a acheté une télé HD Sony, de la gamme 500. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette gamme-là? Ben, c'est une télé à cristaux liquides, mais surtout, elle tourne à 120 Hz. Elle a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc, c'est mieux que du 60. Ça fait une différence énorme, je trouve. Il n'y a pas de traînée. C'est plus fluide entre chacune des images. Donc, c'est très, très bien. Été très bien coté dans le Protégez-vous, question performance, ça a été la première, je pense qu'elle avait un score là, de presque 100%. Là. Donc les couleurs sont extrêmement belles, tout ça c'est du Sony, qu'on le veuille ou non, ils font quand même du bon travail même aujourd'hui. Et puis, pour moi c'était impératif d'avoir tous les branchements possibles ou à peu près, donc il y a un branchement VGA, on peut brancher la télé directement sur l'ordinateur et il le reconnaît parfaitement comme un écran secondaire. Donc, je pourrais à la limite même travailler sur la télé. Tous les branchements possibles, à peu près, sont disponibles là-dessus, sauf le S-Vidéo, ce qui m'a surpris un peu parce que auparavant, Sony supportait quand même beaucoup le S-Vidéo, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et j'en ai profité pour tout mettre à jour, c'est-à-dire j'ai installé Netflix sur la Wii qui était encore dans les boîtes depuis le déménagement. Donc j'ai installé la Wii, j'ai installé Netflix, donc ça fait du bien. On a acheté aussi un lecteur Blu-ray de Sony toujours, donc on a accès à YouTube, on a accès à une foule de chaînes et aussi on a accès à plein de podcasts. Ce qui est dommage par contre de ça, c'est qu'on ne peut pas ajouter ses fils RSS à soi. Donc, c'est juste les choix de Sony comme podcast, ce qui est assez poche. Pas qu'il n'y a pas des bons choix, mais quand même, je veux dire, l'avantage du podcasting, c'est de choisir, c'est pas de se faire imposer des chaînes en particulier. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'ils ont tout ce que fait NPR en podcast. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est totalement gratuit. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc, tout est entièrement branché. On a du choix. C'est hallucinant, c'est sûr. Autant on a la télé sur demande sur notre terminal numérique, mais aussi, on a Netflix sur la Wii et toutes les chaînes sur le lecteur Blu-ray. Donc, on a du choix. C'est absolument incroyable. Et je vous le conseille de faire le saut si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous aussi, ça fait du bien d'avoir tout ce choix-là. Je vais vous parler un peu du App Store de Apple et je vous parle pas du App Store pour acheter des applications pour votre iPhone ou votre iPad, mais je vous parle du magasin pour acheter des vraies applications pour votre ordinateur en tant que tel. Donc, il n'y a pas encore tant de choses que ça. Oui, il y a quand même quelques milliers d'applications qui sont disponibles là. Mais il n'y a pas nécessairement les applications majeures. Quand je parle de majeures, c'est que, aux dernières nouvelles, Microsoft et Adobe n'étaient pas présents pour vendre leurs produits. On peut comprendre pourquoi. C'est sûr que Microsoft est un concurrent direct, même s'ils ont des produits pour Mac. Et Adobe, c'est sûr qu'il y a une petite guerre froide entre Apple et Adobe depuis que Apple a décidé de ne pas supporter Flash pour ses appareils mobiles, pour son iPhone et son iPad. Donc, on va là-dessus, on trouve plein de choses. Moi, le commentaire que j'ai eu, c'est qu'il y a plein de choses qu'on cherche, mais que l'on ne trouve pas. Et il y a plein de choses qu'on trouve, mais que l'on ne cherche pas. Parce qu'on nous fait des suggestions. Certaines choses ne sont pas là. Mais il y a aussi plein de choses qu'on cherche pas du tout, qu'on ne savait même pas que ça existait et qu'on tombe là-dessus. Et il y a des petites perles ici et là. C'est sûr que Apple vend et met de l'avant beaucoup ses propres produits. L'avantage, par contre, des acheter comme ça, c'est que la suite iLife, qui contient, bien, vous le savez, hein, GarageBand et toutes les autres, bien, ils sont offerts à $14,99 chaque. Et si on additionne le prix de tous ces produits-là, bien, c'est moins cher de beaucoup que la copie en DVD. Même chose de la suite iWork. On parle de 19,99 par application. Ça fait pas 60$. Et maintenant, bon, je crois que c'est l'année passée, ça se vendait encore 120-150$. Et là, ils l'ont baissé quand même à 79$ si on achète le DVD et 59,97 si on l'achète de façon électronique sur leur site, ben sur leur système. Donc, c'est assez intéressant. On peut faire des économies à ce niveau-là si, bon, si jamais vous achetez ce genre de choses-là. Mais il y a aussi des petites surprises, comme par exemple Pixelmator. De ce que j'ai pu voir, je ne l'ai pas acheté encore, mais de ce que j'ai pu voir comme interface, on a des fonctionnalités, par exemple, qui se rapprochent de ce qui était fait sur Photoshop 3 ou Photoshop 4. C'est-à-dire qu'on a quand même des couches. On peut travailler en layer, qu'on appelle en anglais, évidemment. Sauf qu'il y a énormément plus de filtres et d'ajustements de couleurs qu'avait Photoshop à cette époque-là. Donc, on a des filtres, des ajustements de couleurs à peu près équivalents à ce que fait Photoshop aujourd'hui. Moins d'automatisation, par contre, mais je pourrais dire que pour 90% des cas, ça pourrait sûrement faire le travail. Leur design d'interface est aussi plus simple, plus épuré, plus belle que Photoshop qui est rendu très, très, très complexe. Donc, ça donne la chance à un développeur de damer le pion à Adobe et remplacer Photoshop. Je ne parle pas nécessairement pour les professionnels, mais pour monsieur et madame tout le monde. Et quand le prix est assez intéressant pour devenir le choix par défaut de tout le monde, qu'il n'y a plus de raison d'acheter le logiciel qui coûte une fortune, le logiciel qui était le standard auparavant. Donc, je ne dis pas que ce logiciel-là va damer le pion à Adobe du jour au lendemain, mais il y a une opportunité là. Est-ce que ça va se réaliser? Moi, je le souhaite, ou à tout le moins que ça offre une compétition forte à Adobe. J'espère que le développeur, ce qu'il va faire en faisant des sous, c'est de réinvestir dans son produit pour l'amener encore plus loin, pour devenir vraiment un compétiteur et leur faire peur un peu parce que je pense qu'ils en ont besoin un peu pour se remettre en question en ce moment. Et on va voir comment ça va évoluer. Je vous fais jouer la chanson 10, encore une fois, mais celle-ci, elle est de Blonde Redhead. Et je voulais vous dire que la guitare écorche juste assez les oreilles. C'est le fun, ça fait un peu punk. Et puis, ben moi, j'aime ça. Et si vous aimez pas ça, ben vous pourrez pas dire que je ne vous ai pas averti. passons aux choses sérieuses. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Jimmy Wales. Donc, je vais vous la faire jouer en deux parties. Une première partie, une chanson, une autre partie, et on termine l'émission. Okay, so I'm with Mr. Jimmy Wales from Wikipedia. Nice to have you on the show.
Thank you. Good to be here.
So you are here in Montreal for WebCom for talking about Wikipedia and all the stuff you have done. How went your session this morning?
It was good. It was good. I talked about Wikipedia, some of the history of Wikipedia. I talked about Wikia, and I talked about the broader cultural changes that the interaction between the web and television, for example, are having. So it's good. It was a bit early in the morning, 8:30 start, so everybody had to get up and drink their coffee, so it was good.
That's good, because Wikipedia is not only a platform, it's all sorts of philosophy that surrounds Wikipedia. So can you talk a little bit about it?
Mm-hmm. Yeah, so Wikipedia is meant to be an encyclopedia, and one of the fundamental pieces of our outlook is that it should be completely free in the sense of open source, so under a free license so people can copy it, modify it, redistribute it, and all those things. So that's an important part of it. Another important part of it is the principle of neutrality, the idea that Wikipedia shouldn't take sides on any controversial issue, but should just present information so people can learn more about it. And then finally, I guess the striving for quality, that our community is very deeply committed to creating the high quality encyclopedia. So that means things like accuracy, of course, but it also means good writing clarity, making sure that everything is presented in an educational and productive way. So there's a lot of ideas floating around in the Wikipedia world that have been very helpful to our success.
And it started in 2001, I think. That's true?
Yeah, that's right. January 15th, 2001.
And how small it was at first? I mean, it started just like a website with nothing on it, or have you posted some stuff to get it started at first?
No, it started completely empty, and I remember people always want to know what was the first article in Wikipedia, but unfortunately nobody remembers that. And we lost some of the early logs, so we're not sure. But I do know what the first words in Wikipedia were. It was on the front page, and I typed "Hello World" and hit save, which is an old thing programmers do in any language. So that was the first words of Wikipedia. But yeah, we started with absolutely nothing and just built from scratch, yeah.
Yeah, and did it took some time before it went a little big, or before people put their hands on Wikipedia at first?
Well, yes, of course, it took some time. I mean, we started with nothing, and basically the traffic and participation was basically doubling every 3 months, every 4 months maybe. And, so starting from a very small group of 20 people, went from there to 40 to 80 to whatever. I think one of the big times for us was actually September 11th, 2001. So we've been around for several months. And, if you turn on the television that day, you just saw all those planes crashing into the buildings over and over. It wasn't very informative. But quickly on Wikipedia, people were beginning to do some research about what are all the buildings that were affected that day, so the Pentagon and the different buildings in New York. Who were the architects of those buildings? Which airlines were involved? Who's the CEO of the airline? All those kinds of background questions that people were curious about that day that weren't just about watching the tragedy unfold, but really trying to think about, okay, what are we going to need to know in the coming months about this? Who are all the terrorist groups that were theorized to possibly be involved? So there was a lot of activity around those kinds of topics. And that was the first time when I really saw the capacity for a community website to respond immediately to what people are interested in and what they're, because the people who write are the same as the people who read in a certain sense. So it fascinating. So that was a big moment. There were other moments, of sort of growth. We used to really see every fall when college would come back into session, we would see a big spike in traffic. That's a little harder to see now just because we're so big already. But yeah.
So when you started Wikipedia at first, did you have plans on how and what it would become in the future, or you just wanted to start something and put it in the hands of the users?
Well, no, a very clear vision from the very start. Some of the principles of neutrality and quality, those were imposed by me from the very beginning. And we really had, this focus on building an encyclopedia. So it wasn't just, oh, here's a community participation site that somehow became an encyclopedia. It was a clear driving vision from the beginning, which actually made it possible for the community to do something. I mean, one of the things I've learned is that if you want to bring a community together to do something, you have to know what it is you want them to do, because otherwise people show up and they want to chip in and help out. But if they don't know what they're supposed to do, it doesn't get anywhere.
And did you face some problems, of growth about technology, about the usability, about the community that was growing? Did you face some growth problems or...
Yeah, absolutely. I mean, of course, one of the biggest struggles in the early years was making sure that we had enough servers and making sure they got installed fast enough. So I used to personally go and install the servers in the racks and set up the software and launch them to the developer community. Every time we bought a new batch of servers, we would see a traffic spike because we couldn't afford to buy servers until the site was already getting to be a little bit slow and we had to buy more servers so we would get some money and go buy servers. So those were growing pains for sure that we had, but normal kind of growing pains for any fast-growing startup.
I can see.
Petite pause musicale pour la pièce 10 de Jacob and Lily de l'album The Cathedral.
I hear your song rising. I see 40 lamps on the hill and they're burning. I'm singing. See you running now.
I had a funny question for you. I was thinking, how did Wikipedia change your life?
Well, I travel all over the world all the time, and I never really traveled much before. So for me, it has given me personally a very global perspective on things, because I go everywhere and I meet people whose lives have been affected by Wikipedia everywhere. And you really do begin to realize it's one small planet that we all live on together. Sort of divisions amongst people in different places around the world due to culture are actually fairly minor as compared to what we share in common, which is always a love for information, a love for finding out the truth and so forth. So that's been a huge change in my life.
And in the feedback you had from people all over the world, did you feel that there's a different perception on Wikipedia from different countries, or it's people feel all use it the same way or perceive it the same way?
So it's more or less the same everywhere. I mean, obviously there's certain local differences and things like that, but for the most part, people are very passionate about Wikipedia. Particularly that, you know, they were able to go on Wikipedia and learn about something they didn't know anything about. Surprise, I just saw recently a video posted of a young girl, probably 8 or 9 years old, in a remote village in Peru, where they just recently got some access to the internet. And she was saying, Wikipedia is great because I go on there and things I don't even know about, I can learn about. And that's the same way I feel about Wikipedia. It's great. I can go on there, and my brother sent me something this morning about graphene transistors. I know nothing about it, but I was able to look up and read some interesting paragraphs in Wikipedia about it. So it's really great.
And accuracy must be a tough challenge for Wikipedia, because there's so many people contributing and from different sources. Is that a problem, or it just filters itself with the users?
Of course it's a big job, but it's one that the community really takes seriously. So if we think about the question of accuracy, we have to understand the accuracy of Wikipedia comes from the editors. The editors are the ones who are doing things. The editors are the ones who are writing. They're the ones we turn to for accuracy, and they're fortunately very, very passionate about accuracy. So there's always work to be done, but, you know, it goes.
Yeah. And a lot of students rely mostly on Wikipedia when they do research. Do you think there's some dangers about relying only on that source?
Yes. Students should not rely only on Wikipedia. What we always say is Wikipedia is a great starting point. It's not the best ending point, particularly at the university level. I would say the same thing about the Encyclopedia Britannica. This is not the role of an encyclopedia in the research process. I always like to give an example. So suppose you're assigned to read a novel that's set during World War II, and the novel mentions the Battle of the Bulge. And you think to yourself, oh, in high school I vaguely remember something about the Battle of the Bulge. I don't know what happened there. So you go to the Wikipedia entry, you read about the Battle of the Bulge, then you return to the novel as you're reading it with a richer, deeper understanding, and you're ready to move forward. That's a very different situation. Now you've used Wikipedia appropriately. You're not reading about the novel that you're supposed to be reading. You're reading the novel, and you're using it to fill in background information and sort of make you a more engaged and enriched reader. And that's the right way to do it. And then when you write your paper about the novel, there's no reason to even mention Wikipedia, because you used it to find out about the Battle of the Bulge, and your paper's about this novel. So that's just one example.
Okay. Because I face sometimes when students answered, like, I don't know, it wasn't on Wikipedia. Like, it was the only source where you can watch for serious information, you know.
Well, I feel sympathy for the students, because if it's not on Wikipedia, you may have a hard time finding out anything about it. But, what I always say is that today we're very far past the era where we should question whether or not students should use Wikipedia. They are using it. Really, now what I think we need to do is to help students learn how to use Wikipedia, when to use it, what are the limitations, and what to do if Wikipedia doesn't have something. Wow, if they feel lost at that point, we can understand. It's a big deal if it's not in Wikipedia, but what do they do next? You know, that's what we need to teach.
Before we end, just on a lighter note, do you think there's questions you've never answered about Wikipedia? Or do you think you've been asked any question about Wikipedia?
That was the first time I've been asked that question. So now I can mark that one off the list and we're done. No more interviews. I do get a lot of the same questions all the time. I do a lot of interviews. I'm sympathetic for the people who are interviewing me because they're not interviewing me themselves. They're interviewing me on behalf of their readers, and their readers may not have heard these things before. There's always new questions, and there's always new things that come up, but they do return to the same themes over and over. How do we do our work? How do we view our work? All those kinds of things.
Okay, and just one last thing. What's next for Wikipedia, and what can you do more than Wikipedia once you've done that big project? I mean, what's next? How do you see things for yourself?
Well, I'm very engaged with Wikia these days, so wikia.com, where we're building the rest of the library. And I still think we're very much at the beginning of social collaboration and finding the tools that people need in all kinds of communities, not just geek communities, to come together to build, you know, amazing sites. One example, we have the recipes wiki. So the kinds of people who are interested in writing about recipes and putting recipes into the recipes wiki are not the same as the people who are contributing to the World of Warcraft wiki, WoW wiki. Different people need different tools. They need different approaches to handle the specific problem that they're facing. So I think there's a ton of work left to do, and there's a big world of opportunity available.
That's great. Thank you very much.
Thanks for having me on. It's been great.
Donc, on va terminer ça en musique encore une fois. Mais avant, je voulais vous dire que si vous voulez avoir toutes les informations sur ce que j'ai parlé dans l'émission, allez sur québecbalado.com. Tout est là. Il y a tous les liens dans les notes de l'émission. Vous pouvez m'envoyer un commentaire par courriel sur québecbalado@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Mon indicatif, c'est S Grand Maison. Vous pouvez être mon ami sur Facebook, me suivre sur Quora. Devenez wild. Amusez-vous. Le web est un terrain de jeu. Ciao.
It doesn't have a title.
Then we've got to give it a number.
Why?
When our time is up, we'll all be on one team. So why do we need bigotry and nonsense? Let's enjoy while Almighty God gives us time.